Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui n'y dérogera pas à sa fidèle tradition et qui vous rappellera ou qui vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent de manière plus ou moins pertinente, mais toujours dans 24 notes secondes depuis 1895 et des poussières. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à évoquer musicalement quelques grandes adaptations au cinéma de grandes pièces de théâtre, de celles qui font, je dirais, le répertoire, comme l'on dit, ces pièces éternelles dans lesquelles on peut toujours puiser les plus grandes histoires, les plus grandes tirades, etc., etc., et qui donc sont illustrées au cinéma avec toutes les contraintes de la transposition d'un art scénique qui se déroule le plus souvent dans un lieu unique au cinéma où il est très difficile quand même d'envisager de rester dans un dispositif trop frontal. Tant de vocabulaire pour dire que parfois, eh bien, le cinéma prend quelques libertés, et parfois c'est heureux, parfois moins, avec les contraintes théâtrales pour proposer une version, je dirais, aérée de la chose. Et c'est le cas du premier film que nous allons évoquer, un film tourné en 1967 par Franco Zeffirelli, et qui est une adaptation d'une des plus célèbres pièces de William Shakespeare, qui n'a pas existé, c'est bien connu, mais dont les pièces ont été écrites par une personne qui s'appelait William Shakespeare. C'est une blague anglaise que vous comprenez ou pas. Ce n'est pas grave. En tout cas, Roméo et Juliette de Shakespeare, eh bien, est certainement l'une des pièces qui a été le plus adaptée au cinéma. Alors, il y a eu des adaptations dès le muet, puisque aussi paradoxal et contre-intuitif que ça paraisse, les premiers films muets, beaucoup d'entre eux en tout cas, furent des adaptations de théâtre, ce qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Et au parlant, eh bien, il y eut un grand nombre de variations autour du thème de Roméo et Juliette, parmi lesquelles on peut citer une version signée en 1936 par George Cukor, très classique, très MGM, très glamour, avec Leslie Howard et Norma Scherrer dans les rôles principaux. Une version signée Renato Castellani, déjà un cinéaste italien, en 1953, avec Laurence Harvey et Suzanne Steinhal dans les rôles principaux, donc de Roméo et Juliette. On peut aussi considérer que le West Side Story de Robert Wise, et d'ailleurs l'auteur du livret s'en recommandait, eh bien West Side Story, c'est une adaptation moderne des Montagu et des Capulet, transposée quelque part à New York. La version de Franco Zeffirelli, elle, est beaucoup plus classique, puisqu'elle se passe à Vérone comme il se doit, et ça, c'est plutôt rare. Eh bien, les acteurs et actrices, Leonard Whiting et Olivia Hussey, ont le rôle de leur personnage, c'est-à-dire très, très jeune. Je ne saurais pas me rappeler exactement, mais Juliette doit avoir 15 ans et Roméo 16 ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment très, très jeunes. En même temps, très très jeune, d'une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, donc avec une maturité peut-être un peu plus grande qu'aujourd'hui. Ma foi, c'était un choix heureux de la part de Franco Zeffirelli. Par contre, ça ne porta pas chance aux deux interprètes principaux, puisque les noms de Leonard Whiting et Olivia Hussey sont quand même pas restés au pentacle, au pentacle. Panthéon, c'est mieux que le Pentacle. Oui, le Pentacle, c'est pour les sorcières. Le Panthéon, c'est pour les gens connus, donc au Panthéon du cinéma mondial. Un qui, lui, par contre, y est resté, eh bien, c'est Nino Rota, puisque c'est à lui qu'on doit cette musique qui obtint en son temps, 1967, un très très grand succès, d'abord dans le film, qui lui-même fut une réussite commerciale assez conséquente, et puis surtout en tant que tel. Je vous laisse profiter de cette belle partition. Nino Rota, Roméo et Juliette dans 24 notes secondes.
Thank you.
La délicate et lyrique partition de Nino Rota pour le Franco Zeffirelli, non, le Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli, tourné en 1967. Nino Rota, on le connaît bien pour ses partitions pour Fellini, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que vous venez d'entendre, mais ma foi, il composa aussi d'autres partitions, et notamment celle-ci avec une ballade qui connut un grand succès pour cette adaptation de William Shakespeare. Alors on va rester dans notre thématique théâtre et cinéma et on va rester et avec William Shakespeare et avec Franco Zeffirelli pour quelque chose de tout à fait différent. Un film tourné en 1990, soit plus de 25 ans plus tard, qui était cette fois une adaptation d'Hamlet, une autre pièce évidemment bien connue de William Shakespeare. Alors, le choix d'interprétation, j'ai dit tout à l'heure que pour Roméo et Juliette, on avait choisi des acteurs et actrices qui avaient l'âge. Pour le film de Zeffirelli tourné en 1990, eh bien Hamlet, c'était Mel Gibson, qu'on n'aurait pas forcément imaginé dans le rôle. Je ne suis pas sûr qu'un colon australien fraîchement débarqué de sa terre natale soit la meilleure personne pour incarner le prince tourmenté du Danemark. Ma foi, Mel Gibson avait eu, c'était tout à son honneur, eh bien le courage de cette production qui lui devait beaucoup. Et à ses côtés, là encore des choix un peu étonnants, on retrouvait Glenn Close dans le rôle de sa maman et Alan Bates dans le rôle de son oncle et Paul Scofield dans le rôle de son papa. Je vous rappelle que son papa, il est mort quand commence la pièce. Et surtout, alors peut-être c'était le choix le plus étonnant, dans le rôle d'Ophélie, qui est une sorte d'égérie d'Hamlet, pour ne pas dire plus, et qui connaît un sort tragique, ai-je besoin de vous le rappeler, eh bien, on retrouvait Helena Bonham Carter, sans doute plus connue pour être l'égérie de Tim Burton, et plus si affinité, et pour avoir être apparue, sauf erreur de ma part, dans quelques épisodes de Harry Potter. Et là encore, ce n'était peut-être pas le meilleur choix pour cette douce Ophélie, telle qu'elle a été immortalisée par les peintres pré-raphaélites, quelque part, à la fin du 19e siècle, mais là encore, je m'égare. Alors, quant au choix musical, ma foi, au point où nous en étions, il était signé d'Ennio Morricone. Ennio Morricone, William Shakespeare, Mel Gibson, Helena Bonham Carter, etc., etc. On va écouter un extrait de cette bande originale, Hamlet, en même chose en français, dans 24 notes secondes. Une partition morriconienne en diable, ça tombe bien, l'Ennio Morricone, pour le film de Franco Zeffirelli, tourné en 1990 d'après la pièce de William Shakespeare. Alors, ma petite fiche qui des fois se trompe dit scénario William Shakespeare et Christopher Devore. Je ne dirais pas ça, le film s'appelait Hamlet et dans le rôle principal, on y trouvait Mel Gibson. On va rester du côté des auteurs de théâtre anglais, ou plutôt irlandais, dans ce qui concerne notre auteur suivant, mais on va franchir quelques siècles, puisqu'on va écouter la brillantissime adaptation en 2002 d'une des pièces du plus brillantissime des hommes, comme il le disait, mon chef-d'œuvre, c'est ma vie, et de fait, Oscar Wilde, c'est de lui qu'il s'agit, connu à la fois la plus fulgurante des ascensions et le destin le plus tragique qui se puisse imaginer. Je ne vais pas les résumer ni l'un ni l'autre ici, mais en tout cas, il aura signé quelques-unes des pièces les plus drôles du théâtre anglais de la fin du 19e siècle. Et l'importance d'être constant, ça s'appelle en français, alors c'est un jeu de mots qu'il est très difficile de traduire de l'anglais, puisque ça s'appelle « The Importance of Being Earnest ». Earnest voulant dire justement constant, mais Ernest étant aussi un prénom, alors que Constant en français est quand même un prénom peu répandu, une histoire assez abracabrantesque, comme disait un ancien président de la République, mais d'une drôlerie, d'une invention, d'un rythme endiablé, échevelé, et vraiment quelque chose qui ne vieillit pas. En fait, on peut revoir cette pièce adaptée de toutes les manières possibles et imaginables. Son charme et sa drôlerie restent. Et les Anglais, ma foi, sont souvent les mieux venus pour adapter le théâtre, j'allais dire anglais, je le répète, Oscar Wilde était irlandais, je pense qu'il n'aurait guère apprécié qu'on le traite d'anglais, mais ma foi, c'était ce sens comique au générique de ce film, donc qui s'appelait aussi L'important d'être constant, sorti en 2002. Il y avait Rupert Everett et l'impeccable Colin Firth et quelques autres. Le film, il était signé d'Oliver Parker, qui signa d'ailleurs plusieurs adaptations, toutes aussi réussies les unes que les autres, d'Oscar Wilde au cinéma. Et on écoutait un extrait de la bande originale signée Charlie Moll et Chris Nicolaides. Alors, rien que pour le plaisir, The Importance of Being Earnest dans 24 autres secondes.
After you, dear boy.
No, after you.
No, do go first. I'm not really very good at the high bits. I'm much better low.
Well, we'll see.
One, two, and.
The western wind is blowing fast across the dark Aegean Sea,
and at the secret marble stair, my Tyrian galley waits for thee.
Come down, the purple sail is spread, the watchman sleeps within the town. Oh, leave thy lily flowered bed. Oh, lady mine, come down, come down. Lady, come down, come down. Lady, come down.
Oh, lady, come down.
She will not come, I know her well, of lover's vows hath no care, and little good a man can tell of one so cruel and so fair. True love is but a woman's toy, they never know the lover's pain.
And I who loved as loves a boy must love in vain,
must love in vain. Come down,
high notes may have damaged our chances, old boy. You do want them to come down, don't you?
Well, she's never going to come down if you're singing like that. You're completely out of tune.
How dare you?
I'll take this bit.
You leave this to me. You go and have a lie down, old man.
And I'll take this bit.
Out of my way. I'm coming through.
Go easy, my dear fellow.
Come down!
Come down!
Come down! Lady, come down!
Overdoing it, less is more.
Bad, was it?
Maybe they're not going to come down. Do you think we should go up? Maybe we should go up.
Algy, you're always talking nonsense.
Well, it's better than listening to it.
Lady, come down.
Booby dooby 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 doo. Un régal, la voix de Rupert Everett et celle de Colin Firth dans un extrait musicalo-théâtral de la bande originale de L'Important d'être constant, avec cet accent anglais si agaçant, mais avec un tel sens de la répartie, un tel brio. On sait que les aphorismes d'Oscar Wilde sont ce qu'il y a de plus répandu. Je ne vais pas vous en imposer un, vous les connaissez tous et toutes, j'espère, mais même si vous ne savez pas qu'ils sont d'Oscar Wilde. Bref, une petite merveille signée Oliver Parker, sortie en 2002. Il faut bien le reconnaître, petite acidité. Les Anglais, notamment avec la BBC, sont beaucoup plus enclins à illustrer toute la richesse de leur théâtre que nous, alors que nous aussi, on a un théâtre tout à fait riche qui gagnerait à être mieux exploité. Voilà qui est dit. On va passer à tout à fait autre chose et on va changer là encore de pays, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film sorti en 2014, un film norvégo-irlandais. Là encore, ça ne s'invente pas. Adapté d'une pièce, évidemment, puisque c'est le sujet de notre émission, une pièce qui fut jouée pour la première fois en 1888, mais qui connut un grand succès et qui depuis fait partie du répertoire que j'évoquais en début d'émission. Ça s'appelle Mademoiselle Julie et c'est l'histoire assez tragique d'une jeune fille du monde qui séduit ou qui est séduite ou qui viole ou qui est violée. C'est pas trop en l'espèce, par un valet de son père. Et tout ça finira mal. Je ne vous divulgage pas la fin de Mademoiselle Julie si vous ne l'avez pas déjà vue. Et en 2014, eh bien, Liv Ullmann, qu'on connaît plus, soit dit sans médire, comme étant l'une des actrices fétiches et une des compagnes aussi d'Ingmar Bergman, eh bien, Liv Ullmann décida d'adapter cette pièce d'August Strindberg. Je ne sais pas si j'avais déjà donné le nom de l'auteur, August Strindberg, qui ne fut pas le plus féministe des auteurs de théâtre, c'est rien de le dire, mais qui avait réussi à saisir avec Mademoiselle Julie eh bien une sorte de tourment de la psyché féminine qui reste encore aujourd'hui d'une grande acuité et d'une grande actualité. La pièce de théâtre avait été adaptée à de nombreuses reprises au cinéma et en 2014, eh bien, Liv Ullmann décida de le faire avec des acteurs américains. Ma foi, pourquoi pas. Le résultat était très classique, mais plutôt bienvenu, puisque Mademoiselle Julie était jouée par la charismatique Jessica Chastain et le valet Jean était tenu par le aussi charismatique pour ces dames comme pour ces messieurs s'ils le souhaitent, Colin Farrell. Le tout était un peu académique, on avait du mal à sortir de ce que j'ai appelé tout à l'heure les contraintes scéniques et la pièce Mademoiselle Julie se prête mal, je dirais, aux extérieurs, comme ce pouvait être le cas, par exemple, de L'Importance d'être constant. Mais ma foi, le résultat n'était pas désobligeant. Et on va écouter un petit extrait de cette bande originale signée de Truls Mørk, que je verrais plutôt norvégien qu'irlandais, mais ça n'engage que moi. Mademoiselle Julie, dans 24 notes secondes. extrait de la bande originale de Mademoiselle Julie, un film de Liv Ullmann tourné en 2014. Alors, je ne sais pas si Truls Moltke était vraiment le compositeur de la musique, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, il faisait des emprunts immodérés au bien-aimé Franz Schubert, que les amateurs, je pense, auront reconnus. Et on va se quitter en écoutant un extrait. Alors, j'ai dit tout à l'heure du mal des réalisateurs français qui ne puisaient pas dans notre répertoire français de théâtre pour illustrer ça au cinéma. Ce n'est pas le cas du film dont nous allons écouter un extrait de la bande originale, un film tourné en 1990 par Jean-Paul Rapneau, d'après une pièce en alexandrin, s'il vous plaît, d'Edmond Rostand. Vous avez sans doute reconnu Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, avec l'aide de Jean-Claude Carrière, eh bien, Jean-Paul Rapneau adapta magistralement au cinéma. Il faut dire que pour le rôle de Cyrano, il y avait le monstre sacré Gérard Depardieu. À ses côtés, il y avait Vincent Pérez et puis il y avait la délicieuse Anne Brochet dans le rôle de Roxane. Roxane, de laquelle Cyrano est amoureux, mais comme il a un nez comme une péninsule ou un cap, eh bien, ma foi, il ne parvient pas à concrétiser, si vous me passez l'expression. Et le tout finit tragiquement, mais le film est absolument magistral. Et on va écouter donc un large extrait de la bande originale signée par Jean-Claude Petit pour ce film, pour clore cette émission de 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.